deux chefs-d'œuvre mutilés. Qui ne connaît la Vénus de Milo, cette admirable statue que possède le musée du Louvre à Paris? Qui n'en a vu la reproduction en bronze, en terre cuite ou seulement en plâtre dans les vitrines des marchands d'objets d'art? Les connaisseurs s'accordent à lui donner la palme parmi les productions de l'art antique qui se sont conservées jusqu'à nous. Quant au public, moins soucieux de l'âge des choses que de leur valeur intrinsèque, son admiration depuis 60 ans ne s'est jamais lassée. La Vénus de Milo est et demeure le modèle achevé de la beauté plastique. Et pourtant, quelle mutilation n'a-t-elle pas subie? Jugez-en, les deux bras lui manquent et le nez est endommagé. Pour qu'une femme n'ayant plus de bras et dont le nez est aplati soit belle encore et belle à défier ses rivales, il faut, mes auditrices en conviendront, qu'elle ait été parfaite à l'origine. La Vénus de Milo l'était. Ce que nous savons de son histoire, le voici en peu de mots. En 1820, un consul français la trouva dans l'île de Mélos, ou Milo, l'une des Cyclades, au moment où un paysan qui l'avait déterré dans son champ allait en faire une borne. Il l'acheta 6 000 francs, rendu au port d'embarquement. Le laboureur y attela ses bœufs et la traîna par les champs et les routes. C'est ainsi que l'ignorance a toujours traité les grandes choses. C'est merveille que dans un voyage accompli de cette façon, la Vénus n'ait perdu qu'un fragment de son nez. Car les deux bras lui manquaient déjà. On l'avait tirée ainsi de la fosse où depuis des siècles elle dormait. Aussi, pendant longtemps, se livra-t-on à des recherches minutieuses pour retrouver les bras perdus. Mais si elles ne furent pas inutiles, puisqu'elles mirent au jour bien des choses précieuses, elles furent infructueuses pour ce qui concerne notre statue. Ce qui est tout aussi étrange que l'inutilité de ces recherches, c'est l'impuissance des sculpteurs modernes à restaurer la Vénus de Milo. Après plusieurs essais, on a dû renoncer à lui faire des bras convenables. Et pourtant, à ce que l'on assure, quelques-uns de nos meilleurs maîtres s'y sont essayés. Il eût fallu saisir ce qui, malheureusement, sera toujours un secret. La statue était-elle seule ou faisait-elle partie d'un groupe? Quelle était sa position? Qu'avait-elle dans les mains? Il faudrait en un mot retrouver la pensée même de l'artiste. Ce serait le plus grand des hasards que l'on y réussit. Ah, si l'on pouvait ressusciter le maître inconnu dont la poussière, depuis tant de siècles, s'est mêlée à celle qui recouvrait sa statue. Si l'on pouvait le mettre en face de ce marbre et lui dire « Voilà ton œuvre, nous la trouvons belle, mais toi tu la reconnais à peine, car elle est défigurée, mutilée, bien différente de ce qu'elle était quand elle est sortie de tes mains. Eh bien, refais-la. » Mais le sculpteur est mort, plus mort que sa statue. Il n'y a donc rien à faire. La Vénus de Milo sera toujours admirable, mais toujours mutilée. Je connais un chef-d'œuvre auprès duquel celui du Louvre n'est qu'une pierre informe et sans valeur. Il est du plus grand artiste qui ait jamais vécu. Il est le type le plus parfait de la beauté sous tous ses aspects. Le chef-d'œuvre dont je parle, lui aussi a subi des mutilations. Il est méconnaissable, comparé à ce qu'il était jadis. Tombé de son piédestal, il s'est brisé. La boue l'a recouvert et souillé pendant des siècles. Malgré tout, il est resté ce qu'il y a de plus grand sur la terre. Ce chef-d'œuvre, auditeur, c'est vous et moi. En un mot, c'est l'homme. L'artiste, c'est Dieu. Et la mutilation, c'est celle que le mal, c'est-à-dire le péché et ses conséquences, nous a fait subir. Ah, qui dira combien elle était admirable, la créature humaine, lorsqu'elle sortit pure et sans tache des mains du Créateur. Ce que nous appelons jeunesse et beauté n'est que décrépitude et laideur en comparaison. Le corps, sans infirmité, ni flétrissure, ni ride, n'était que l'enveloppe et l'image d'une âme qui était elle-même la parfaite image de Dieu. La raison, la conscience, le cœur, tout était plein de lui, tout lui rendait hommage. Plus la statue reproduit la beauté humaine, plus elle est parfaite. Ainsi, la créature humaine était parfaite car elle reproduisait la beauté divine. Mais ce chef-d'œuvre, hélas, a été mutilé. Il est tombé de son piédestal. Certaines gens le nient. L'histoire de l'Éden et de la chute les fait sourire. Mais ce qu'ils ne sauraient nier, c'est leur dégradation présente. Comment l'homme a-t-il perdu sa pureté, sa noblesse, sa vertu, sa joie, sa vie, enfin? Mystère, si vous voulez. mais une chose est certaine, c'est qu'il pêche, qu'il souffre et qu'il meurt. Et ce qui est non moins certain, c'est qu'il ne peut revenir à son premier état. La restauration de l'humanité a été entreprise bien souvent. Toutes les religions n'ont eu d'autre but que de découvrir quelque part, de faire remonter de la terre ou descendre du ciel les dons sacrés que l'homme a perdus. Vains efforts. Les religions ont complété l'œuvre de destruction, et l'homme que ses passions avaient avili est tombé plus bas encore sous le joug des prêtres qui prétendaient le relever. Les philosophes n'ont pas été plus heureux. Ils ont fouillé la nature et le cœur humain. Ils ont inventé 1000 choses qui étaient fausses, ils en ont découvert 2 ou 3 qui sont vraies, mais s'ils ont pu nous dire ce que nous devrions être, ils n'ont pu nous rendre tels, ils ont remis la statue devant son piédestal, mais ils n'ont pu l'y faire remonter. Soyez bons, vous serez heureux. Voilà le dernier mot de leur sagesse. Mais comment devenir bons? Ils n'ont jamais pu nous l'enseigner. La science, à son tour, nous a conquis bien des choses. Elle a fait de l'homme, en apparence, un roi moins déchu qu'il n'était. Elle lui a remis en main le sceptre de la nature, mais pour un instant seulement, car il faut le déposer à la mort. Elle lui a soumis les éléments, mais ne l'empêche pas d'en devenir la proie. D'ailleurs, ses conquêtes, dans le domaine physique, n'en ont amené aucune dans le domaine moral. Elles ne lui ont donné ni la force contre les passions, ni le remède aux maux de la vie, ni l'apaisement de la conscience, ni la vie éternelle. À ce point de vue, l'état de l'humanité a été le même dans tous les siècles, affirmant à la fois combien l'homme est grand, puisque Dieu seul peut lui donner ce qui lui manque, et combien il est petit, puisqu'après être tombé par sa faute, il ne peut se relever de lui-même. Je disais, en parlant de la Vénus de Milo, « Ah, si l'on pouvait replacer l'artiste devant son œuvre et lui dire « Refais-la !» Cela est impossible, l'artiste étant mort. Mais écoutez, celui qui a fait l'homme, qui a pétri son corps et lui a donné une âme vivante, le Créateur est disposé à reprendre son œuvre et à la restaurer. Que dis-je? Cette restauration est déjà faite. En voici l'histoire. Un homme parut il y a 19 siècles. Il était parfait. Nul en lui n'avait rien à reprendre. Les hommes étonnés le regardaient, les uns avec admiration, les autres avec envie, mais tous sentaient qu'entre eux et lui, il y avait toute la distance de la terre au ciel. Cet homme, c'était Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le Créateur lui-même avait pris la forme humaine afin de refaire son œuvre et de régénérer l'humanité. C'est ici que toute image devient insuffisante. C'est ici qu'il devient impossible de comparer le divin sculpteur des âmes vivantes à l'artiste qui façonne un bloc inanimé. Ce qu'il s'agissait de créer à nouveau, en effet, c'est un être vivant. Rendre à nos corps leur beauté eût été peu de chose. Le guérir de ses maladies eût été insuffisant. Il fallait tuer la mort. Il fallait tuer le mal dans sa source même. Il fallait détruire le péché. Et c'est ce qu'a fait Jésus-Christ. Sa vie était irrépréhensible. Il devait donc monter au Père sans mourir. Il n'en a pas moins souffert le trépas, et quel trépas que le sien. La multitude des souffrances, des tourments et des remords que les hommes avaient accumulés, il les a endurés. Il a ainsi expié tous nos crimes, lui qui n'en avait commis aucun. Il s'est mis complètement à notre place et nous a mis à la sienne. Lui, le nouvel homme, a fait de nous des hommes nouveaux. Ce n'est pas une restauration qu'il a faite, c'est plus que cela, c'est une substitution. L'humanité était ruinée et ne valait pas la peine d'être réparée. Il fallait la détruire pour la refaire. Et Jésus-Christ, par un miracle d'amour que Dieu seul peut concevoir et que Dieu seul peut comprendre, s'est assimilé à la vieille ruine. Il est devenu l'incarnation de la douleur, la victime de la mort. Plus que cela, il s'est fait péché pour nous. Mais Dieu l'a ressuscité, et nous avec lui. La vie éternelle qui était en lui ne pouvait demeurer dans le sépulcre, et comme il s'était associé à notre mort, nous l'avons été à sa vie. Désormais, l'humanité est devenue nouvelle, étant sortie avec Jésus-Christ comme d'une nouvelle création du tombeau où il s'était enseveli avec elle. Mais remarquez que des deux parts, cet échange est volontaire. C'est de notre plein gré que nous sommes sauvés par celui qui, de son plein gré, est mort pour nous. C'est bien le moins, puisque nous avons voulu tomber, que nous voulions du moyen qui s'offre à nous de nous relever. Nous ne sommes pas un bloc de marbre dont le sculpteur tire ce qu'il veut. Nous sommes des esprits libres, quoique déchus, et Dieu lui-même, malgré le sang de son Fils répandu pour nous, malgré sa résurrection, Dieu lui-même ne saurait nous donner la vie éternelle si nous ne consentons pas cet échange avec Jésus-Christ, le seul nom qui ait été donné aux hommes et par lequel ils puissent être sauvés. Auditeurs, c'est donc à vous de voir si vous voulez être pour l'éternité un être sans destinée, une statue gisant à terre, un chef-d'œuvre mutilé, ou si vous voulez vous placer aux mains de celui qui fut votre Créateur pour qu'il devienne votre Sauveur.